Chapitre 55. Le radeau livré à lui-même filait à vive allure sur la Loire grossie par la débâcle et la fonte des neiges. Tantôt le courant, toujours aussi violent, le rapprochait de la rive, tantôt il le ramenait au milieu du fleuve. Il atteignait parfois une zone d'accalmie. Mais à peine les deux cheulnes encore équipés de leurs pelles essayaient-ils de le manœuvrer, que les blocs de glace, surgissant de l'arrière, le percutaient de plein fouet et le propulsaient vers de nouveaux rapides. L'écume des gerbes et les gouttes de pluie tiraient des rideaux opaques cinglants qui transformaient les berges et les collines en ombres inaccessibles.
« Les cales !» cria Wolf. « Elles sont en train de s'arracher !»
La chemise détrempée, plaquée sur son torse, une main soudée au bas de la carrosserie, il s'était avancé vers le marchepied avec une prudence de loup, s'arrêtant régulièrement pour remonter la bretelle de son fusil d'assaut. La pluie semblait délaver ses yeux, qui ressemblaient à deux astres morts dans le ciel minuscule découpé par la fente de son passe-montagne. Solman, lui, n'avait lâché à aucun moment la tige du rétroviseur. Il avait l'impression que le courant et le vent exploiteraient le moindre de ses mouvements pour le précipiter dans le fleuve. Les vibrations inquiétantes qui parcouraient la tôle du camion se communiquaient à sa colonne vertébrale et accentuaient les élancements à sa jambe gauche. Il soulageait de temps à autre sa jambe valide, gagnée par les crampes, en transférant le poids de son corps sur son bras accroché à la tige. Bien que sa position fût des plus inconfortables, il n'avait plus la possibilité d'en changer, trop diminué à présent pour anticiper et compenser les gîtes de l'embarcation. C'était déjà un miracle qu'aucun des cheulnes ne se fût noyé. Ils avaient perdu l'équilibre à maintes reprises, mais ils avaient réussi à s'agripper à une saillie, au pare-choc, au châssis, et à se relever malgré les violentes projections d'eau. Solman vit Wolf s'accroupir et observer les coins de bois cloués au tronc. Il ferma les yeux, mais la peur et la douleur se liguèrent pour l'empêcher de s'immerger dans le silence de l'esprit. La vision, de toute façon, ne lui serait d'aucune utilité dans ces circonstances. Il n'avait pas d'autre choix que de placer sa confiance en Mère Nature et d'accepter sa décision. Peut-être la cause des derniers hommes ne méritait-elle pas d'être entendue? Peut-être les temps étaient-ils venus de s'effacer, de laisser la terre aux frères et aux sœurs de Khadija. Il ne leur serait pas difficile d'en faire un meilleur usage, même s'ils fondaient leur légitimité, comme beaucoup d'autres avant eux, sur l'extermination d'une race supposée inférieure, sur un champ de cadavres. Khadija avait parlé d'une faute originelle, de l'aboutissement d'une logique millénaire. Était-ce à cette même faute que le livre de Raïma faisait allusion? À cette faute en principe expiée par Jésus de Nazareth au nom de tous les hommes, et dont l'agonie, à en juger par les résultats 2000 ans plus tard, n'avait servi à rien. La souffrance du Christ, comme toutes les souffrances humaines, n'avait-elle été qu'un dû, aussi exorbitant qu'absurde, à la marche triomphale du temps?
« Il faut absolument accoster !» cria Wolf en se redressant. « Ou nous risquons de perdre le camion !»
Solman se demanda si les secousses rageuses du radeau n'avaient pas renversé Moram et Ismaïl, placés de l'autre côté du véhicule. Il n'entendait plus leur voix, ce qui n'avait rien d'étonnant avec le grondement assourdissant du fleuve, les gémissements des troncs et les grincements des blocs de glace. Le vent avait rabattu le col de sa canadienne sur ses épaules, et des gouttes fraîches s'insinuaient dans ses narines, entre ses lèvres. Il s'efforçait de ne pas les avaler. Mais il consacrait une grande partie de sa vigilance à rester debout sur le marchepied fuyant. Et parfois, il prenait conscience que l'eau avait exploité son relâchement pour s'infiltrer dans son palais et s'écouler dans sa gorge. Pourtant, il ne ressentait pas les effets du poison. Pas encore. Comme si les pluies des jours précédents avaient dilué le venin des anguilles. Cela faisait maintenant un bon moment qu'ils avaient laissé derrière eux les ruines de Tours. Les nuages s'étaient crevés alors que Solman apercevait encore les formes irrégulières des bâtiments et des montagnes de gravats. Wolf grimpa sur le marchepied avec une agilité étonnante pour un homme de sa taille. la laine imbibée de son passe-montagne, qui épousait les reliefs de son visage, avait la consistance d'une peau brune et rugueuse. Une embardée le projeta vers l'arrière, mais il parvint à se rééquilibrer en se rivant à la poignée de la portière. Ses grosses veines bleutées tranchaient sur la blancheur ruisselante, irréelle, de ses mains. Il se hissa sur la marche supérieure et vint se placer près de Solman.
Qu'en dit la vision, boiteux ?
Elle ne dit rien du tout, répondit Solman avec une agressivité proportionnelle à la douleur qui le crucifiait sur la tôle de la portière.
Mal à la jambe, hein ? Tu devrais te mettre au sec, dans la cabine.
Solman tourna vers le scorpiote un regard implorant.
Je ne peux pas. Je vais t'aider. Pas seulement à te mettre à l'abri, mais à trouver une solution. Peut-être qu'en s'y mettant à deux.
Wolf enroula son bras libre autour de la taille de Solman et le serra contre lui.
Je te dirai quand lâcher le rétroviseur.
Je vais tomber, Wolf.
Fais-moi confiance.
Faire confiance en celui qui a tué ma mère.
Solman sentit avec une netteté dérangeante la tension soudaine des muscles de Wolf. Même si ces paroles étaient sorties involontairement de sa bouche, il regretta de les avoir prononcées. Accabler l'ancien scorpiote n'était pas seulement inutile, mais injuste. C'était rajouter de la souffrance à la souffrance, amplifier la spirale qui s'apprêtait à disperser les cendres de l'humanité. Wolf s'était avancé aux limites de ses possibilités sur le chemin du rachat, et autant que les autres, davantage que les autres, il méritait de la compréhension, de la compassion.
Confiance en ton père.
Solman discerna parfaitement l'aveu murmuré et emporté par le grondement du fleuve. Il avait su que Wolf était l'assassin de ses parents à la lueur de leur conversation au sortir du labyrinthe souterrain. Il avait établi le lien avec les dernières paroles de Mère Catherine. Il en avait conclu que le scorpiote était son père biologique, qu'il tenait de lui son don de clairvoyance, sa maigreur, ses yeux clairs. Mais entendre la confession de sa bouche le frappa de stupeur, comme si l'abstraction s'était tout à coup matérialisée devant lui. Wolf venait de rompre les vœux de silence qu'il avait observés pendant 18 ans, de la même manière que le radeau avait brisé la corde tendue au-dessus de la Loire.
« Pourquoi ?» bredouilla Solman. « Nous en parlerons plus tard, quand nous serons sur la terre ferme. Laisse-moi faire. Ne cherche pas à résister, d'accord ?»
Solman acquiesça d'un clignement des paupières. Wolf entrouvit la portière, lutta pendant quelques secondes avec le vent qui s'acharnait à la refermer, puis attendit que le radeau pénètre dans une zone un peu moins agitée.
« Maintenant !»
Solman estima que les gîtes de l'embarcation étaient encore trop prononcés pour lâcher la tige. Il vit, comme dans un rêve, une gerbe se pulvériser sur les extrémités des troncs et asperger deux chelnes de la tête aux pieds. Les blocs de glace ondulaient comme des monstres à demi immergés dans les flots écumants.
« Maintenant !»
répéta Wolf. Solman, cette fois, obtempéra, entièrement vidé de ses forces. Il prit vaguement conscience que Wolf le maintenait d'un bras ferme, le soulevait comme un enfant et pivotait lentement sur lui-même pour le pousser dans la cabine. La crosse du fusil d'assaut lui comprimait les côtes. Il continua de percevoir le grondement du fleuve et les hurlements du vent, puis se sentit soudain environné d'un calme insolite, comme s'il venait de pénétrer à l'intérieur d'une bulle de silence. Il lui fallut quelques minutes pour s'apercevoir qu'il était assis sur le siège conducteur, que sa tête et ses cheveux détrempés reposaient sur ses avant-bras croisés sur le volant. Sa jambe gauche, prise de tremblement, semblait ne plus lui appartenir. Wolf referma la portière, l'enjamba et alla s'asseoir à son tour sur la banquette passager. Les grincements qui montaient du camion, le crépitement de la pluie et des embruns sur les vitres, prenaient désormais le pas sur les autres bruits. L'amplitude des secousses paraissait diminuer. Mais ce n'était qu'une sensation illusoire, un faux sentiment de sécurité entretenu par l'isolement de la cabine. La colère des éléments filtrée par la tôle et le verre n'avait rien perdu de son intensité.
Je propose que, chacun de notre côté, nous essayons d'envoyer la vision dans la même direction, dit Wolf.
Je ne vois pas comment on pourrait influencer de quelque manière que ce soit sur le courant de ce fleuve,
objecta Solman en se redressant.
Et puis vous, tu n'as pas dit à Moram que tu n'avais plus la capacité de provoquer le don?
Je ne sais pas si on peut réellement agir sur la matière. Je ne sais pas non plus si mon don daignera se manifester. Je sais seulement que ça vaut la peine d'essayer.
Solman détendit sa jambe gauche et lança un regard déterminé à Wolf.
Je veux d'abord voir ton visage.
Ah, tu es comme Moram,
soupira le scorpiote, incapable de te fier à un homme que tu n'as jamais vu à visage découvert, hein?
Je veux seulement voir le visage de mon père. D'un revers de manche,
Wolf essuya la buée qui se formait sur la vitre et observa les chelnes qui, courageux, obstinés, s'escrimaient à lutter contre le courant et les blocs de glace.
Qu'est-ce que ça changera?
Si tu m'avais pas dit toi-même que tu étais mon père, j'aurais respecté ta volonté de rester anonyme.
Tu l'avais déjà deviné. Quelle différence?
J'ai besoin maintenant que tu ailles jusqu'au bout.
Wolf hocha la tête, se débarrassa de son fusil, puis, avec une lenteur qui traduisait son appréhension, entreprit de retirer son passe-montagne. Le cœur battant, la bouche sèche, Solman vit peu à peu apparaître le visage de son père. Il ne put retenir un geste de surprise. Le côté droit, d'une blancheur presque cadavérique, offrait un contraste saisissant avec le côté gauche qui, rongé, brunâtre, comme déchiqueté par des bêtes féroces ou léché par le feu, laissait entrevoir les cartilages du nez, les os des mâchoires et les racines des dents. Si les cheveux agglutinés par l'humidité tombaient en cascade épaisse et grise sur une épaule, ils se réduisaient à quelques fils épars, rêches et noirs de l'autre côté du crâne, également ravagés. Le hâle de la seule partie que le scorpiote exposait à la lumière du jour, les arcades sourcilières, le coin des tempes et le haut des pommettes, lui dessinaient un masque étroit autour des yeux.
Une maladie dégénérative, murmura Wolf.
Une variété de cancer, sans doute provoquée par les radiations et transmise génétiquement. Elle s'est déclarée quand j'avais 5 ou 6 ans. Mon cadeau de donneur. Elle ne s'est pas seulement attaquée à l'une de mes joues. J'ai une hanche et une jambe salement amochées, à gauche.
Je n'ai jamais remarqué que tu boitais,
bredouilla Solman. Il aurait voulu ajouter quelque chose. Dire par exemple que la joie de le contempler était infiniment supérieure à toute autre réaction, qu'elle fût d'horreur ou de pitié, mais les mots s'enrayait dans sa gorge. Il comprenait que Wolf avait été condamné à la solitude bien avant de se mettre au service du Conseil Aquariot, coupé des autres dès son enfance, comme les transgénosés, comme Raïma, par une malédiction physique, en comparaison de laquelle sa propre infirmité paraissait bénigne, presque dérisoire.
Il y a bien longtemps que je ne serais plus de ce monde, si les autres avaient eu vent de mon handicap,
dit le scorpiote.
Les hommes ne sont pas plus courageux que les fauves. Ils s'attaquent aux plus faibles des troupeaux. Tant qu'ils me croyaient en pleine possession de mes moyens, ils gardaient au fond d'eux une crainte qui me donnait l'avantage. Et comme je voulais à tout prix rester en vie, j'ai exercé mon esprit à dominer la douleur.
Rester en vie? Pourquoi?
Une gîte prononcée entraîna une nouvelle série de craquements et un mouvement de roulis du camion. Une buée opaque se propageait sur les vitres et retranchait les deux hommes dans l'intimité de la cabine.
Pour veiller sur toi, il m'était interdit de revendiquer mon droit à la paternité, et
qui te l'avait interdit?
Celle qui était sans doute la sœur de Khadija. Nous en parlerons plus tard.
Nous avons plus urgent à faire. » Solman acquiesça d'un hochement de tête, se laissa aller contre le dossier du siège conducteur et ferma les yeux. Il fut instantanément ramené à cette nuit qui avait si souvent hanté ses pensées et ses rêves. Le simple fait de pouvoir mettre un visage sur la respiration saccadée qui offensait le silence de l'autre côté de la cloison de toile le délivrait définitivement de ses peurs, de ses hantises. Il n'était plus l'enfant perdu dans les ténèbres et tétanisé sur son matelas. Il observait la scène enfin reconstituée avec une neutralité apaisante. Il n'avait plus à fuir dans les ténèbres parfumées de l'été. L'homme qui venait d'égorger ses parents ne lui voulait aucun mal. Au contraire même, s'érigeait à partir de cet instant en gardien intraitable de son existence. Le crime de Wolf avait noué entre eux un lien invisible mais indestructible. L'assassin du conseil avait puisé dans ses remords, dans son malheur, un amour qui avait renversé les alliances et les lois, qui avait défié la matière et le temps. Et Solman, à rebours, prenait conscience de toute la force de caractère qu'il avait fallu à son père pour exercer sa vigilance, pour expier sa faute, seul contre tous. Traqué par les sbires du conseil, condamné à la solitude et au silence par sa maladie et ses secrets. Combien de trajets éprouvants sous les essieux des voitures ou des camions? Combien de jeûnes? Combien de privations? Combien de nuits épouvantables dans les remorques ouvertes au vent ou dans le cœur d'une nature hostile? Combien de crimes commis à cause des pères et mères aquariotes? Combien de jours, combien de semaines à se demander comment il en était arrivé à trancher le cou de la seule femme qu'il eût jamais aimée? Myrgwan, la belle aquariote, qui avait accepté de lui ouvrir ses bras et son ventre, malgré son visage saccagé. Wolf abaissait les barrières qui jusqu'alors avaient empêché Solman de le sonder, s'autorisait enfin à relâcher son attention, à mettre sa mémoire à nu, à se soumettre à la vision et au jugement de son fils. Solman découvrit, par les yeux de son père, le visage et le corps de sa mère. Son regard à la fois inquiet, tendre et moqueur. Ses lèvres pleines, sa chevelure ondulée et sombre. Elle courait dans une lande déserte, vêtue d'une robe légère, pieds nus, se retournant tous les trois pas et semant des bouquets de rire dans son sillage. C'était cette image que Wolf gardait d'elle. Un rêve insaisissable, un éclat de liberté, de beauté, de sensualité, de gaieté, dans un monde marqué par la dégénérescence, la violence et la mort. Il l'avait aimée avec sincérité, avec passion. Mais la force destructrice qui s'exprimait à travers les pères et les mères du conseil aquariote s'était montrée plus forte que ses sentiments, et lorsqu'elle avait refusé de s'acquitter de sa part de marché, de leur remettre l'enfant comme convenu, il n'avait pas trouvé la force de se dégager de l'emprise de Mère Catherine, d'enfreindre l'ordre qui lui avait été donné de la tuer. Il s'était donc rendu un soir à la tente de Myrgwan et de Pyrrhic, son époux officiel, dont l'impuissance, due à une forme de transgénose, était de notoriété publique. Il avait égorgé Pyrrhic, à moitié ivre, avec la même facilité qu'un mouton, et avait traîné son corps dans l'entrée avant de rejoindre Myrgwan dans la pièce centrale. Il l'avait trouvée en train de préparer le repas du soir. Elle avait tourné la tête, lui avait souri, s'était approchée sans un bruit pour ne pas donner l'éveil à son mari. Il l'avait embrassée avec fougue. Il l'avait repoussée avec une telle brutalité qu'elle était tombée sur le sol. Puis elle avait aperçu le couteau et compris les raisons d'une visite qu'elle avait d'abord prise pour une magnifique imprudence. Elle s'était mise à gémir, à crier. Il s'était abattu sur elle, lui avait plaqué la main sur la bouche, lui avait retroussé sa robe et l'avait violée conformément aux instructions. Elle s'était débattue, mais elle n'était pas de taille à se défendre contre lui. Il avait sans doute davantage pleuré qu'elle. Surtout lorsqu'il lui avait posé la lame du couteau sur le cou et qu'il lui avait fendu la gorge d'un coup sec. Soutenant son regard agrandi par l'incrédulité et l'horreur, il avait attendu qu'elle expire avant de se relever et de remonter son pantalon. Il était resté à l'écoute du silence, couvert du sang de sa maîtresse, hébété, accablé par le remords, envahi d'un désespoir si poignant qu'il avait songé pendant quelques secondes à se planter la lame dans le cœur. Il avait perçu un froissement, une respiration hachée, des sanglots étouffés, et deviné que les bruits avaient réveillé l'enfant. Il avait pris sa décision à ce moment-là. Solman, officiellement orphelin, serait désormais livré à la volonté du conseil Aquariot, et nul n'était mieux placé que Wolf pour savoir ce qu'il coûtait à un donneur d'être le jouet des manipulations des pères et mères des peuples. La mort de Mirgwan avait brisé l'envoûtement, l'avait délivré de l'emprise de Mère Cadvrin. Il avait payé un prix exorbitant pour la reconquête de sa liberté, un tourment que rien ni personne ne pourrait un jour apaiser. Mais il lui fallait maintenant mettre sa rage et sa détresse au service de l'enfant, l'aider à grandir dans un environnement qui n'adorait les diseurs de vérité que pour mieux les brûler, le protéger contre les rapaces de tout poil pullulant dans les campements. Il avait refoulé tant bien que mal son envie de retourner dans la tente du conseil et de faire subir à ses commanditaires le même sort que Mirgwan. La vengeance n'apporterait rien de bon, ne le soulagerait pas de sa faute, risquait même de se retourner contre son fils. Il devait apprendre à ne plus penser en fonction de ses désirs, mais en fonction des intérêts de Solman. Apprendre à se nier, à s'évanouir dans les ténèbres, dans le silence, dans le secret. Devenir un ange de la vie après avoir été celui de la mort. Solman, Agar était sorti de la tente et s'était enfui à travers les bruyères. Il avait suivi à distance la petite forme claire qui s'était dirigée vers une grève de galets et avait pleuré pendant un long moment, recroquevillé au pied d'un rocher. Posté en haut d'une falaise, Wolf avait repoussé jusqu'à l'aube la tentation d'aller le prendre dans ses bras et de le consoler. Quand il avait vu le groupe d'Aquariot se saisir de Solman et le ramener au campement, il avait à nouveau versé des larmes. Puis, fort de ses nouvelles résolutions, il était entré en clandestinité comme ses ancêtres, les résistants scots de la Troisième Guerre mondiale, qui avaient refusé de prendre parti pour l'un ou l'autre camp, et qui, capturés par les soldats de la ligne PMP, avaient été fusillés par centaines sur une place publique de l'ancienne ville d'Édimbourg. Il n'avait pas tardé à vérifier le bien fondé de sa décision, quand, deux jours après ces événements, les pères et mères Aquariot avaient lancé à ses trousses quatre jeunes crétins chargés de l'abattre. Des coups répétés entraînèrent Solman à ouvrir les yeux. La face grimaçante de Moram se découpait dans le carré de la vitre du côté passager. Le radeau avait cessé de giter et le vent était tombé. Des fenêtres bleues se découpaient dans le plafond nuageux, annonçant le retour du soleil. Wolf, qui avait enfilé son passe-montagne, ouvrit la vitre.
« Qu'est-ce que vous foutiez là-dedans ? » grogna Moram.
« Besoin de se parler, » dit le scorpiote.
« Il y a des moments mieux choisis pour ça. On est sortis de ces putains de rapides. On ne va pas tarder à accoster. »
Les blocs de glace dérivaient paresseusement sur les courants apaisés. Solman ignorait si la vision avait un quelconque rapport avec cette accalmie inespérée, mais il eut le sentiment que Mère Nature avait rendu son verdict.